Bon, allez, on y est.
Tais-toi.
Non, toi, tais-toi.
Mais chut, vous deux.
Mais c'est lui, là, il arrête pas. Bon, allez, où?
Merde, c'est fermé. On doit trouver notre entrée.
Laisse tomber, c'est foutu.
Non, sinon, on passe par derrière, c'est toujours ouvert, là-bas. Chut. Bougez, bougez, entends-tu du bruit?
C'était juste un chat.
Bon, allez, bannez-vous, on y va.
Ouais, on te suit.
Les garçons, on peut m'aider à grimper?
Ouais, bien. Merci. Bouge.
C'est bon, y'a personne. Moi, je m'occupe de l'entrée et vous du salon. Tenez, je vous file les sacs.
Ok, ça roule.
Ok.
Mais t'es débile ou quoi? Allez, t'as cette lumière. On va se faire repérer.
Flinguez-vous, je crois qu'il arrive.
Bon anniversaire.
Bande de couillons, vous m'avez fait peur.
Qui pourrait dire qu'il a jamais désobéi à ses parents? Allez, franchement, au moins une fois dans sa vie.
Nous, on est des ados de 15 ans, en an 3e, à la SECPA du collège de Lansargue. Alors, désobéir, ça nous connaît. Et au départ, on pensait être de vrais pros en matière de bêtises.
Cette semaine, on a beaucoup réfléchi sur le thème de la désobéissance. On a parlé entre nous, on est allé poser des questions, et au final, on s'est rendu compte qu'on pouvait désobéir à n'importe quel âge. Et pas qu'aux parents d'ailleurs.
Et même, on s'est rendu compte qu'il peut y avoir des situations dans la vie où désobéir, c'est pas forcément faire une bêtise.
Un jour, sans faire exprès, j'ai cassé un objet précieux aux yeux de ma mère. C'était un verre que lui avait offert son père. Elle y tenait vachement. Résultat, une journée dans ma chambre, sans ordinateur, sans jeux vidéo, sans rien. Mais moi, j'avais pas fait exprès. J'avais déjà super les boules d'avoir cassé ce verre. C'est comme si j'étais puni deux fois. Je trouvais ça super injuste. Alors, j'ai escaladé le mur qui donne sur le mini-toit. Je l'ai suivi jusqu'à chez les voisins. Puis je suis descendu par leur escabeau. Ils ont un chien. Il m'a coursé jusqu'à leur portail. Une fois libre, je suis parti à l'étang de l'or. En fait, quand je suis énervé contre ma sœur ou mes parents, je vais à mon endroit secret dans Mogio. Il y a un arbre avec un petit pont. J'y avais construit une petite cabane. Pas de voiture, juste la nature. Personne ne me dérange là-bas. Ni les adultes, ni les potes. Si j'ai fait le mur, c'est juste que j'en avais marre de la vie. J'avais trop envie de souffler. J'ai écouté le vent et j'ai regardé l'air bouger. Alors, c'est comme si une nouvelle vie commençait.
Nous sommes devant l'école Louise Michel à Saint-Jean-de-Védas et on va rencontrer Bastien Casal, le prof qui a désobéi. Alors, bonjour.
Bonjour.
Bastien Casal, vous êtes le leader des désobéisseurs. Vous avez écrit un livre. Je suis prof et je désobéis. À quoi avez-vous désobéi?
Eh bien, c'est des changements en 2008 qui transformaient l'école en profondeur, qui faisaient que ça allait de plus en plus sélectif. On allait trier les enfants plus tôt, leur dispenser un enseignement qui est moins à la portée de tous. Ces règles qui nous avaient été imposées ne permettaient pas de respecter des principes comme celui qui est écrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que les enfants ont droit au respect de leur vie privée, par exemple. Et il y a des outils informatiques qui sont contraires à ça, puisqu'ils enregistrent tout un tas de données sur tous les enfants tout au long de la scolarité. C'est pour cette raison que j'ai désobéi à une petite règle pour obéir à un grand principe.
Quels sont les risques que vous avez eus?
Quand j'ai pris cette décision, je ne pensais pas prendre beaucoup de risques, un peu naïvement, parce que je continuais à faire mon travail, à m'occuper des enfants, à leur enseigner des choses. Mais finalement, le fait que je l'ai dit publiquement, donc par une lettre ouverte que j'ai adressée au président de la République, et puis le fait d'avoir répondu aux journalistes par la suite, ça a attiré trop le regard sur ce que je contestais, ça a déplu à l'administration, qui du coup a voulu me faire taire. Donc ils m'ont enlevé 36 jours de salaire sur la moitié d'une année scolaire, en 2008-2009. Là. Et puis plus tard, ils m'ont enlevé la direction de l'école, Comme j'estimais que toutes ces sanctions étaient injustes, j'ai fait appel au tribunal administratif. Et au bout de 2 ans, parce que c'est très long, j'ai eu pour partie gain de cause. J'ai récupéré ma direction d'école. Par contre, pour les jours de salaire retirés, je n'ai pas gagné. Donc c'est des caisses de solidarité qui ont compensé mes pertes de salaire.
Est-ce que vous avez regretté ce que vous avez fait ?
Ça n'a pas été tout le temps facile. Je n'ai pas regretté, je n'ai pas plié, je n'ai pas abandonné. Parce que ce que je disais, j'y croyais vraiment. C'est plus que je sentais bien que j'étais dans le juste. Il y avait plein de collègues qui étaient en contestation aussi. Puis comme je sentais qu'il y avait un groupe qui soutenait, que les parents étaient comprenés aussi, que des élus locaux aussi comprenaient, je ne me suis pas senti seul du tout. Au contraire, donc j'ai eu le courage de tenir bon. Et j'étais même bien dans mes baskets, si je puis dire, parce que ce que je faisais, j'y croyais vraiment.
Vous, en étant prof, par rapport aux enfants que vous leur apprenez à respecter les règles et vous ne les obéissez pas aux règles, par rapport à ça, comment vous vous positionnez ?
C'est une très bonne question. Alors après, c'est la notion, j'ai parlé de petites règles, de grands principes tout à l'heure. C'est un peu ça qu'il s'agit de comprendre. Je faisais ça pour une des raisons qui sont essentielles au lieu dans lequel je travaille, qui est un service public d'éducation. Donc on doit donner au maximum à tous les enfants les chances d'apprendre, de s'émanciper. Donc comme c'est dans cet objectif-là que je l'ai fait et pas pour mes conditions à moi de travail, avoir plus d'argent ou des choses comme ça, ça a un autre sens de désobéir que juste voler parce qu'on a envie d'avoir le téléphone du voisin. Je pense que tu comprends la différence.
Oui, je comprends très bien.
Let's hear now an example of correct microphone placing.
L'année dernière, j'étais dans un internat à Montpellier. Ça avait l'air bien au début, mais en fait, quelle arnaque! Toute la journée, on est en classe. On a une demi-heure de quartier libre par jour, et après, on doit monter dans notre chambre. Douche, brossage de dents, pyjama, un petit film à la salle télé, même pas en entier d'ailleurs. Et quand c'est l'heure de dormir, tout le monde râle et on va se coucher. Là, il est 21h15. Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré? On n'est pas des enfants, on est des ados quand même. Et puis surtout, chez moi, j'avais plutôt l'habitude de me coucher tard. Alors une fois, je prends mon phone et j'envoie un texto au copain du dortoir. J'ai écrit « À 1h du mat, vous venez tous dans ma chambre, on parlera et on rigolera. » C'est pas facile de traverser un internat. Il faut pas se faire griller par l'éducateur qui surveille le couloir. Il marche toute la nuit et dès qu'il envoie un sortir, il le renvoie cash dans sa chambre. Il faut être rapide et savoir ouvrir sa porte super discrètement. Nous, on l'avait la technique. Et donc, à 1h du mat, ils étaient tous là. Et on a passé une bonne soirée. Vers 3h30, tout le monde est rentré dans sa chambre. Après, on l'a plus refait. Parce qu'on avait peur de se faire choper. Mais franchement, nous, c'était gentil par rapport à d'autres trucs qui se passaient là-dedans. Mais s'ils voulaient pas qu'on désobéisse, eh ben, faudrait qu'ils nous laissent aller au lit un peu plus tard quand même.
Imagine un mec qui travaille en boîte de nuit, qui est super baraqué, qui a un visage qui fait peur, et que quand il vous serre la main, la sienne fait 2 fois la vôtre. Et ben ce mec, c'est mon père. Et quand il vous dit quelque chose, vous avez intérêt à le faire, on a franchement pas envie de l'énerver. Si je le réveille le matin, enfin vers midi 1h, ou que je fais des conneries, il me recadre vite. Vous devez vous dire que mon père est très sévère. Et ben non, en fait il est super sympa, on rigole beaucoup ensemble. Je le trouve vraiment drôle. Enfin, quand il ne travaille pas comme un dingue. Obéir à mon père, c'est logique. Il nous faut tous quelqu'un pour nous recadrer. Moi, je pense qu'on a besoin de règles. Ça me dérange pas d'obéir. D'ailleurs, je me verrai bien dans l'armée plus tard. Je signerai un contrat de 2 ou 3 ans pour voir si ça me plaît. Bouger, voir du pays, me donner à fond physiquement, comme au rugby. Ouais, je crois que l'armée, ça peut me plaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'obéir ne me posera pas de problème. Je suis déjà habitué. Pour mieux comprendre l'importance de la confiance quand on doit obéir à quelqu'un, notamment dans le monde militaire, nous avons rencontré le commandant Boons, retraité de l'armée du Royaume-Uni. Nous lui avons demandé pourquoi il s'était engagé dans l'armée.
Pourquoi j'avais envie d'être militaire ? ça c'est une question, parce que j'étais jeune à ce moment-là, je ne suis plus jeune et vraiment j'ai oublié. Mais c'était la vie d'aventure, mélange d'utilise la tête et le corps, être là pour... J'avais envie peut-être d'être chef, terrible, hein? Diriger tout ce truc-là. Hein? Il y a des gens comme ça.
Quel grade vous avez quand vous êtes à l'armée?
J'ai quitté l'armée comme commandant à l'âge de 36 ans.
Et vous êtes à l'armée en Angleterre ou en France?
Surtout en Malaisie.
Comment fait-on pour se faire obéir?
Ça, c'est une question de base pour les militaires. Parce qu'il faut comprendre que les militaires ne sont pas là juste pour donner et recevoir des ordres. La vie militaire, c'est la vie d'équipe. Et il faut avoir quelqu'un qui décide. Bon. Et c'est le chef, à n'importe quel niveau, qui décide.
Est-ce qu'il est facile de désobéir à l'armée?
Non, c'est presque impossible. Parce que l'armée, c'est question, c'est pas comme la loi. La loi existe, si on n'obéit pas à la loi, il y a un problème, on est puni et tout ça. Donc l'armée, c'est facile parce que c'est question de la vie et de la mort. Si on n'obéit pas, alors il y a un problème. Parce qu'il y a un risque que ce que tu ne fais pas, on ne suit pas les ordres, pourrait faire tuer les autres, vos camarades. Ça ne se fait pas. Parce que dans l'armée, on donne la vie pour les autres.
Avez-vous déjà désobéi à un ordre?
Comme militaire, non, jamais. Comme civil, souvent. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une question qu'il faut poser à un certain moment. Est-ce qu'il faut désobéir? Je vous pose la question.
Si je dois tuer un civil que je pense qu'il n'a rien fait et que je dois l'exécuter,
oui.
je ne le ferai pas.
Ok. À ce moment-là, tu n'as pas confiance au chef. Tu crois que tu as le droit de dire non. Alors, tout tombe en panne. Un chef te donne l'ordre de tuer quelqu'un, un civil. Tu dis, ah, nous ne sommes pas là pour tuer les civils. Mais peut-être le chef sait que ce civil-là n'est pas civil du tout. C'est une femme avec Toto, et au-dessus, il y a une mitrailleuse. Alors, il le sait, tu ne le sais pas. Il te dit, tue-le. Alors, tu dis non, alors, elle sort la mitrailleuse et tue tout le monde. Raté. C'est un contre-argument, c'est tout. C'est pas parce que tu n'as pas raison. Mais parce qu'il y a autre façon de regarder. Voilà. À ce moment-là, la vie d'un militaire, c'est dur. Hein? Il faut avoir confiance au chef. Ils n'ont pas toujours raison. Mais si tu poses la question sur ses ordres tout le temps, l'armée ne marche plus.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Oh, merci à vous, hein. ça m'a beaucoup plu. Hein. Eh bien, j'ai quelque chose ici comme orange Coca-Cola, ça vous dit? On peut dire oui? Oui, c'est bien, voilà. Oui, on hésite à dire oui, mais j'ai quelque chose dans le frigo.
À Noël, mon père m'a offert un quad. Un mercredi après-midi, je suis parti en faire avec mon cousin. Je commence à faire un petit tour tranquille et mon père m'appelle. Il me dit, arrête le moteur. Donc je le coupe. Et là, il me dit, va pas trop vite. Et là, je lui réponds, je sais conduire. Et lui, il me redit, va pas trop vite. Ok. Je m'éloigne peu à peu doucement. Et quand je suis à peu près à 100 mètres de lui, j'accélère à fond. Et je commence à rouler super vite. Trop envie de sensations fortes. Je fais deux tours nickel et au troisième tour, je fais un tonneau à environ 90 km/h. Je me suis fait une fracture du poignet. Ça aurait pu être pire. Heureusement, j'étais bien équipé. Mon père avait pas vu la chute. Pour pas qu'il m'engueule, j'ai essayé de soulever mon quad. Et mon os s'est déplacé. De pire en pire. Je pouvais plus rien faire. Et mon cousin l'a appelé à la rescousse. Mon père est embêté que je me sois fait mal. Il m'a amené à l'hôpital, où on a dû m'opérer. Et il m'a dit, je te l'avais dit, mais tu m'as désobéi. Avec du recul, je me dis que j'aurais pu l'écouter, mon père, car il a de l'expérience. Quand il était jeune, lui aussi il s'est cassé le tibia péroné, la jambe et le doigt en faisant de la moto. Mais des fois, on a beau nous dire de pas faire un truc, faut qu'on le fasse quand même. Pour comprendre par nous-mêmes ce qu'on risque.
Un jour à la sortie du collège, je suis allée à Lunel, à 5 km de là. C'était pour voir mon petit copain. Le matin même, je l'avais demandé à mon frère. Mais il avait dit non. Et pourtant, je lui avais juste dit que j'allais sortir avec des copines. Il s'en doutait, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a dit non. Mais moi, j'ai pas voulu l'écouter et je suis allée quand même. Mon frère, il est bien plus âgé que moi. Il est venu habiter avec ma mère et moi en 2006, après le décès de notre père. On s'entend trop bien, mais il a tendance à trop commander la maison. Comme il est le seul homme, il pense qu'il peut tout diriger. Mais moi, j'aime pas lui obéir. J'aime bien lui tenir tête. Plus il m'interdit de sortir, plus j'ai envie de le faire. Il suffirait qu'il m'autorise. Peut-être que je sortirais même pas. Bref, cette fois-là, je suis allée à Lunel. Et j'ai pas répondu à ses appels jusqu'à 20h30. Sauf que j'avais pas prévu qu'il s'inquiéterait, ma mère et lui. Ils étaient venus au collège, ne m'avaient pas trouvée, et étaient finalement allés chez les gendarmes, et tous me cherchaient. Finalement, j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher à l'entrée du village. Il faisait déjà nuit. Et là, c'est les gendarmes qui sont venus me chercher. J'ai pas compris au début pourquoi ils étaient là. Ils m'ont ramené, m'ont posé plein de questions, et m'ont conseillé de prévenir quand je sors. À la maison, ma mère était en pleurs tellement elle était inquiète. Mon frère, lui, il m'a fait la gueule à un moment. Et puis c'est passé. Je crois qu'il a compris qu'il fallait me laisser un peu plus de liberté.
Papa, c'est l'heure, j'ai mon match de foot.
D'accord, à tout à l'heure. Joue bien.
Allô, Mathieu ?
Ouais.
Ouais, c'est bon, je suis dehors, j'ai dit à mon père que j'allais au match.
Ça roule, elle arrive à quelle heure ?
Qui ça ?
Bah à ton avis, la meuf avec qui tu veux sortir ?
Son train arrive dans 10 minutes.
Ok, on se retrouve là-bas, à tout de suite.
Ok, ciao. Salut. Ça fait plaisir que tu sois là.
Moi aussi, je suis content d'être avec toi.
Je te présente Mathieu.
Bonjour.
Bonjour.
Dépêche Mathieu, prends mon portable, c'est mon père qui m'appelle. Je suis occupé là, si tu vois ce que je veux dire.
Et je lui dis quoi ?
Démerde-toi, improvise.
Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est Mathieu, son pote. Non, je peux pas vous le passer. Il est en pleine action là. Il va droit au but, je sens qu'il va marquer. Oui, il va marquer. Oui, il a marqué.
Attention,
Dylan, on a un petit problème. Je vais tout vous expliquer, monsieur.
Vous me prenez pour un con ou quoi ? Vous êtes à la gare.
Moi, je ne désobéis jamais, parce que j'ai le droit de faire ce que je veux.
Moi, je ne désobéis jamais. De toute façon, j'ai jamais le droit de rien faire.
Moi, j'ai le droit de sortir avec les amis, d'aller dormir chez une copine. Bien sûr, sans exagérer. Je vais pas n'importe où, n'importe quand non plus.
Moi, quand je demande à ma mère de sortir avec mes amis, c'est non. Prendre le bus seul, c'est non. Aller chercher le pain. Devinez la réponse. Et oui, c'est non.
Je pense que ma mère me fait confiance, donc je ne pourrais pas la trahir. Dire que je vais à un endroit alors que c'est pas vrai.
Moi, j'ai l'impression que ma mère ne me fait pas confiance, car elle a peur de tout. Peur que je fasse des bêtises. Pour elle, tout est dangereux. Elle a peur que je me fasse enlever dans le village où j'habite. Franchement, je crois qu'il y a peu de chance. Du coup, je suis obligée de rester chez moi.
Moi, je n'ai plus mon père, donc j'aide ma mère quand elle a besoin. Ma mère se débrouille pour nous élever toute seule. C'est une femme remarquable.
Moi, je me sens plus proche de mon père que de ma mère. Des fois, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi dure avec moi.
Chez moi, je suis l'aînée. Pour moi, c'est important de donner le bon exemple à mes petits frères, car je veux pas qu'ils fassent des bêtises.
Chez moi, je suis la petite dernière. Ma grande sœur, elle dit que j'ai toujours ce que je veux. Exemple, un portable. Mais moi, ce que je voudrais vraiment, c'est de l'indépendance.
En tout cas, si j'étais mère moi aussi, je ferais confiance à mes enfants pour ne pas trop les couver. En fait, je ferais exactement comme ma mère.
Ah ouais ? Eh ben moi, je ferais pas comme la mienne. Je sais ce que ça fait d'être surprotégée et je voudrais pas leur faire ça. Remarque, ma mère aussi disait ça. Et finalement, elle a fait pareil. Et Marine, ça te dirait pas d'échanger nos parents ?
Oui, Mélissa. Mais tu dis que si on t'autorisait tout, tu serais jamais à la maison. Tu sais, moi ça marche aussi parce que je suis super raisonnable.
Bonjour, je m'appelle Marie Delphin. Je suis la responsable d'un atelier au Théâtre des 13 vents, donc l'atelier de costumes.
Pourquoi pensez-vous que vous avez désobéi ?
Au début de ma carrière professionnelle, j'ai suivi un parcours qui n'était pas le mien, qui ne me correspondait pas et qu'on m'avait imposé, soit par la pression familiale, soit par la pression de l'entourage et même aussi à l'école. Donc j'ai passé un bac en économie, c'était une matière que je détestais d'ailleurs. Et puis j'ai continué quand même comme ça dans mon parcours et j'ai commencé à travailler dans le milieu industriel qui ne me correspondait toujours pas, mais j'ai continué quand même. Et je dis souvent qu'à l'époque j'étais un bon petit soldat parce que je faisais ce qu'on attendait de moi. Et puis à un moment donné, il m'a fallu désobéir, c'est-à-dire cesser d'être un bon petit soldat pour devenir ce que je voulais être vraiment. Et puis un jour, comme ça, en rencontrant des gens, j'ai découvert le métier de costumier de spectacle. Et ça a été le déclic. Et à ce moment-là, j'ai décidé de bifurquer complètement, de désobéir dans le sens où j'ai dit non, c'est fini, je change de vie. Je quitte, j'ai donc quitté mon métier, j'ai démissionné et j'ai quitté la ville où j'habitais aussi. J'ai mis des centaines de kilomètres entre ma famille et moi pour pouvoir recommencer une vie qui me correspondait.
Pourquoi avoir quitté ce chemin tout tracé ?
Ben, pourquoi ? Parce que je crois que c'était inévitable et c'était vital. Parce que quand je vous dis je gagnais bien ma vie, mais en fait ma vie, j'étais en train de la bousiller parce que j'étais malheureuse.
Est-ce que votre désobéissance a eu des conséquences importantes ?
Oui, bien sûr, ça a complètement transformé ma vie. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très obéissant. J'étais une petite fille très sage, j'ai toujours obéi à ma maman. Et quand je suis rentrée en révolte, ça a eu des conséquences déjà sur ma vie personnelle avec ma famille. Et puis, c'était une seconde naissance, en fait. Voilà. J'ai commencé à me reconstruire et à m'épanouir et avoir du plaisir dans mon travail à 25 ans.
Pensez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient désobéir comme vous ?
Je pense qu'il y en a beaucoup, mais après, à un moment donné, il faut oser. Et c'est là qu'on franchit pas forcément le cap. La pression autour de soi, de tout quitter, de tout casser, en fait. On a l'impression qu'on casse, mais pas vraiment, parce que c'est pour reconstruire. Ça influe aussi ma vie privée et ma vie sociale, du coup.
J'obéis à mes goûts. J'obéis pas à la mode des autres. Faut pas avoir honte du style vestimentaire qu'on a. Parce que sinon, on serait tous pareils. Ça serait nul. Surtout au collège, il y a une grande pression au niveau des habits. Par exemple, pour les chaussures, tous les ados ont les mêmes baskets. Les miennes de chaussures, en tissu léopard. Mes potes, jamais ils porteraient ça. Mais moi, je les aime bien. Alors je les mets. Je dois tenir ça de ma famille. Parce que mes parents, ils ressemblent pas aux autres parents. Mon beau-père, il a un look de motard avec des cheveux super longs. Mon père, c'est plutôt Bob Marley. Et mon grand-père, c'est un gitan. Genre boucle d'oreille, chaîne en or et chemise ouverte. Et là, je vous parle que du style vestimentaire. Dans ma famille, on est libre et on s'en fout de certaines règles de la société. Des fois, un peu trop, je trouve. Mais je suis fier d'en faire partie et fier de nos différences. Je peux être qui je veux être sans m'occuper des regards des autres.
Et voilà, notre mission se termine.
On espère que vous l'avez écouté avec obéissance.
On remercie Bastien Casal, le professeur des écoles.
Merci également à Marie Delphin, costumière au Théâtre des 13 vents.
Enfin, nous remercions Alan Boone, un militaire à la retraite qui nous a offert son témoignage sur la désobéissance à l'armée.
Nous remercions également l'association Wakadi, Jean-Jacques, Magali et Julie, nos professeurs de la SECPA, Madame Lacoste et Madame Richard.
On espère que notre émission vous aura plu.
On a vécu une super expérience cette semaine.
Et au final, on était très obéissants sur ce thème de la désobéissance.
Pour réaliser cette émission, il y avait
Mathieu,
Léo,
Myriam,
Charlie,
Kevin,
Iliès,
Manon,
Dylan,
Alan,
Melissa,
Marine
et Guillaume.
Et surtout, n'obéissez pas trop et lâchez-vous.